Il était une fois, dans une contrée que je vous ai déjà contée, quatre dames en lesquelles il faut avoir foi. Celles-ci, déjà vous les ai-je présentées, peut-être les avez-vous déjà rencontrées. En tous les cas, laissez-moi vous en parler de nouveau. Dame Ae, mère de l'eau, Dame Iyar, mère de l'air, Dame Fuan, mère des bêtes, Dame For, mère du végétal. Aujourd'hui, notre sujet est l'animal, en son règne, en son vivant, original. Ou originel, comme il vous plaira, Dame Fuan est mère comblée, car regardez combien d'enfants il lui est né. Dans leur toile, s'abritent les araignées dans les bois, courent, rampent, grimpent mille vies dans les eaux, nagent et se cachent mille grands et petits. Dans la terre, creusent et se dissimulent autant d'êtres que dans les nids des frênes, des chênes et des hêtres. Sur le sable, sous les pierres, au creux de l'herbe, il existe autant de déclinaisons de l'animal que de paysages. Et Fuan porte tantôt le plumage, tantôt la crinière. Sa fierté aimante n'a point de barrière tant elle s'émeut d'amour pour chacun, et je vous dis bien chacun, de ses enfants qui s'ébattaient dans l'autour. Et chacun avait connaissance de leur mère aimante et de leur naissance. Ainsi, tous pensaient à elle, l'adoraient, et prenaient d'elle conseil et mots. Mais ceci était qu'avant les grands mots qui frappèrent, terre et ciel en pareille démesure. Vous souvenez-vous de la querelle d'Iyar et d'Ae, de leur violence mise en confrontation, du cercle de leur force comme cataclysme, de leur égoïsme et aveuglement qui frappa fort Fuan et leur enfant. Cet événement arriva si tôt dans le monde que ce fut pour eux la première expérience de la disparition d'une vie. Partout, à travers la terre, l'abondance était maître. Les enfants de Fort nourrissaient ceux de Fuan, avec bonté, sans qu'aucun ne se damne. L'apprentissage de leur vie était celui-ci. Parfois, les nouvelles pousses formaient mécontentement en leur bouche. Alors les vieilles souches, nervelées par les années et la mousse, grondaient avec bienveillance leur descendance. Nous sommes le présent, qu'offre mère à sa sœur. Comprends-tu, mon enfant ? Le présent et les heures. Oui, ce peuple était et reste aujourd'hui caractérisé par sa générosité et son talent à donner sans compter recevoir, à offrir fruits, fleurs, branches sans effort, sans jamais grincer de plainte dans leur écorce. Ainsi, toute bête, insecte, oiseau ne manquait jamais sans pour autant se servir de trop. Quant à lui, le peuple animal avait hérité de plus d'orgueil et de douleur à l'âme, car quand déferlèrent les immenses vagues, quand le sol se craquela, quand les vents rêches balayèrent les étendues, aucune de leurs prières ne fut entendue. Ils suppliaient, rappelèrent, alors qu'ils manquaient d'air sous la force des tempêtes, alors que les courants les échouaient sur le sable, alors qu'arbres se brisaient sur eux, alors que sous leurs yeux, parents, amis, enfants disparaissaient, leur souffrance leur donna une voix qu'ils utilisaient pour invoquer reines et rois, mais trop petits ils étaient pour que leurs cris atteignent les oreilles des entités. Le loup hurlait et le hibou ululait à l'une son désespoir. L'oiseau et la cigale chantaient leur mélopée fatiguée à Soliel. Le chien courait et aboyait après ses fantômes. Le serpent sifflait en s'immisçant dans les cicatrices du sol. Le lion rugissait sa colère à son miroir et le cerf bramait ses litanies dans les forêts se vidant de vie. Un, en particulier, faisait entendre sa voix, plus fort que tous les autres, plus fort que la nature et ses hôtes. Ce cerf-là avait rassemblé, grâce à ses cris, une horde plus imposante chaque jour. Au départ, biches, faons et cerfs se pressaient autour. Bientôt d'autres animaux vinrent. Prédateurs, proies, solitaires, tous venaient pour se taire, pour écouter ce noble corps. Car pour lui, la litanie était devenue un tort. Il avait, des jours durant, cherché son âme jumelle et sa fille dans les forêts sombres et vides. Il avait pleuré. Son âme jumelle et sa fille dans les forêts sombres et vides, écorchant ses bois contre les écorces. Épuisé, il avait perdu foi et force, il avait perdu voix et vie. Puis, un matin, il avait tourné ses naseaux vers Soliel, vers l'idée de sa mère, vers le haut. Et soudain, délesté des pleurs, il se mit à détester les heures, il vit naître la colère qui engendra la vengeance. Il fallait ne plus être faible et ne plus courber les chines devant la fatalité due à Iyar et à eux. Qui était-elle pour eux? Qui était-il pour elle? Qui était-il pour mère? Où était mère pendant que tous souffraient, pendant que ses sœurs leur offraient mort et chagrin? Ce cerf-là se nommait Ba. Et possédait la voix la plus grave ainsi que la ramure la plus impressionnante qu'aucun autre ne porta. Imaginez des bois qui effleuraient les branches, qui se confondaient avec les arbres lorsqu'ils sortaient de la lisière d'une forêt. Alors les autres l'appelèrent le bel bas. Il fut leur fédérateur. À ses côtés, chacun faisait reculer ses peurs. Il leur montra le langage universel, que tout pouvait se comprendre, que tous les mots pouvaient se prendre, que tous devaient oublier leurs différends pour marcher à ses côtés jusqu'aux confins du Levant. C'est ainsi que Belba quitta sa forêt natale avec une horde multicolore d'âmes. Il le suivait vers Soliel, sous la lumière de jour, et souvent il croisait d'autres animaux. Alors Belba s'adressait à eux, les bois hauts. Rejoignez-nous, en notre sein il n'y a nul fou. Seulement vos frères et vos sœurs, marchant vers notre mère et son cœur, réclamez justice, réparation des préjudices, réclamez explication, réparez cette horrible conclusion qu'ont désormais nos vies. Ainsi primera notre voix et avis. Et tous les rejoignaient, laissant les forêts, les plaines, la terre vide de tous ces êtres. Tous confiant leur avenir en Belba et ses dires. Celui-ci avouait son ignorance quant à la destination de leur errance à tous ceux qui le lui demandaient. Leur marche ne devait point les mener vers un lieu, un espace, une entrée, mais vers leur mère qui, quelque part sur terre, devait elle aussi errer. Car chaque être vivant savait depuis l'enfance et son temps que jamais loin elle marchait. En tout cas, c'est ce qu'on leur contait. Oui, chacun savait l'histoire de Fuane la vagabonde, quelques-uns l'avait déjà perçu dans le monde. Les plus vieux de chaque tribu pouvaient raconter aux plus jeunes sous quelle forme ils l'avaient reconnue. Fuane ne quittait que rarement la terre sur laquelle vivaient ses enfants. Toujours en mouvement, elle se déplaçait, de désert en marécage, de paysage en paysage, de forêt en forêt, de plaine en plage. Son apparence était si changeante qu'on pouvait entendre les vieux sages animaux se disputer quant à sa description. Pourtant, Fuane affectionnait en particulier une forme née de plusieurs mélangées.